un petit bouquin que en diuen els francesos, que és les 50 mots clés de l'histoire medieval, traduït al castellà, en català sabeu prou, les 50 mots clau de la història medieval. Un llibre a l'altre antípode, potser, de penetració, d'investigació, com és la Catalunya mil anys enrere, però en canvi és un llibre de profunda síntesi, útil i necessària per tots nosaltres que som aquí i moltíssima altra gent que no hi són però que ho voldrien ser. Ara dono la paraula al professor Bonnassi.
Bon, je voudrais d'abord remercier mon ami Ascari Mundo de ces quelques mots si gentils et aussi dire tout le plaisir que j'ai à me trouver ici parmi mes amis catalans dans ce milieu si sympathique. Et je pense que ce colloque va faire progresser beaucoup nos connaissances sur le Moyen-Âge catalan. Puisqu'il me revient d'ouvrir le colloque, je voudrais d'abord, si vous voulez, en introduction, souligner le chemin parcouru au cours de ces 15 ou 20 dernières années en ce qui concerne d'abord la définition même du concept de féodalisme et ensuite, plus particulièrement, en ce qui concerne le féodalisme catalan. Il y a seulement 15 ou 20 ans, lorsqu'on parlait de féodalisme, en français d'ailleurs on disait plutôt féodalité, on entendait désigner, dans la plupart des cas, un système juridique fondé sur la vassalité et le fief. Autrement dit, l'étude du système féodal ressortissait à l'histoire institutionnelle beaucoup plus qu'à l'histoire sociale. Et lorsque cette étude s'appliquait à la société, celle-ci n'était envisagée que dans ses sphères supérieures, comme disait Robert Boutruche, au niveau des hautes puissances, entendons au niveau de l'aristocratie. On n'envisageait guère d'autres relations féodales que celles qui unissaient les vassaux, et d'ailleurs les seuls vassaux nobles, et leurs seigneurs. Lorsque l'histoire de la paysannerie était abordée, et elle l'était rarement, elle l'était toujours hors du cadre féodal. Depuis 15 ou 20 ans, les progrès de la recherche ont fait éclater cette conception trop étroite du féodalisme. En 1978 déjà, au colloque de Rome, auquel plusieurs d'entre nous participaient, au colloque de Rome sur structure féodale et féodalisme dans l'Occident méditerranéen, on a donné, malgré les réticences de quelques participants, une définition plus large du féodalisme. Un féodalisme envisagé à la fois, et c'est si vous voulez la définition que nous retiendrons ici, un féodalisme envisagé à la fois comme système des rapports sociaux et comme structure de production et de profit. Je crois que c'est cette définition que nous retiendrons, car le seul énoncé des communications que nous allons entendre montre que le féodalisme sera étudié ici dans son acception la plus large, dans ses aspects institutionnels et juridiques, et il ne faut jamais les oublier, dans ses aspects sociaux, mais aussi bien au niveau de la paysannerie qu'au niveau de la noblesse et au niveau des rapports qu'entretiennent paysannerie et noblesse, dans ses aspects économiques, dans ses aspects militaires, et je pense principalement au problème des châteaux, dans ses aspects, enfin, mentaux et idéologiques. Quant au féodalisme catalan, il n'était guère considéré, il y a 15 ou 20 ans, que comme une variante périphérique, marginale, incomplète, d'un féodalisme dit classique, qui était alors le féodalisme dans des pays d'entre Loire et Rhin. Sur ce point aussi, des révisions radicales se sont produites. La recherche récente a fait apparaître l'originalité puissante des féodalités méditerranéennes, et parmi celles-ci, la féodalité catalane apparaît comme l'une des plus structurées. Autrement dit, à son tour, le féodalisme catalan fait figure de modèle, et c'est en tant que modèle que nous avons, je crois, à l'envisager ici. D'où les deux questions qui président à l'organisation de ce colloque. Premièrement, comment ce modèle s'est-il élaboré ? C'est le problème de la formation. Et deuxièmement, dans quelle mesure et sous quelle forme ce modèle s'est-il imposé hors de la Catalogne ? Et c'est le problème de l'expansion. C'est à ces questions que je voudrais essayer d'apporter ici quelques éléments de réponse en introduction à ce colloque, pour du moins la période antérieure à 1150, en insistant évidemment plutôt sur le premier point, la formation, puisque c'est le point le plus important pour la période qui m'est impartie. Alors je voudrais d'une part souligner les grandes idées sur lesquelles maintenant l'unanimité s'est faite ou s'est presque faite. Et d'autre part, signaler les problèmes qui restent en suspens, les problèmes qui appellent un approfondissement de la recherche. Alors ces problèmes et ces idées, je les ai regroupés en 5 points principaux que je voudrais examiner successivement. Premier point, naturellement, la situation de départ. Comment se présentait la Catalogne avant l'avènement du féodalisme ? Quel mode de production connaissait-elle ? Quel type de formation économico-sociale ? Peut-on parler d'esclavagisme ? Et si oui, jusqu'à quand ? Pour l'époque visigothique, à mon avis, la survie du régime esclavagiste ne fait aucun doute. Il y a, me semble-t-il, autant d'esclaves dans l'Espagne du VIe ou du VIIe siècle qu'il y en avait dans l'Espagne romaine. Et l'Espagne du Nord-Ouest, ce qu'on appelait la Gothie alors, ne fait pas exception. Pour la période d'occupation musulmane, on manque totalement de données. Et si l'un ou l'autre d'entre vous pouvait fournir des renseignements à ce sujet-là, je crois que nous en serions tous heureux. Au début de l'époque franque, et jusqu'aux premières années du Xe siècle, les esclaves semblent encore nombreux. Je dis « semblent », car si j'ai pu faire un recensement des mentions d'esclaves pour le Xe siècle, aucun recensement n'en a été fait pour le IXe siècle. Et je crois qu'il faudrait faire un corpus de ces mentions de servis, d'anquillés, de manquipia, en les localisant et en les datant aussi bien que possible. En tout cas, pour citer un exemple, l'acte de Sponsalicium, souscrit vers l'an 900 par le comte Sounier en faveur de sa femme, montre que les domaines fiscaux étaient encore peuplés d'esclaves, et ceci jusque dans la zone frontalière, jusque dans la châtellenie de Cervellio. On a encore dans cette région-là de nombreuses mentions de manquipia aux alentours de l'an 900. Mais cette situation se transforme vite. Elle se transforme dès la fin du IXe siècle et à coup sûr au Xe siècle. Les mentions de manquipia se raréfient pour disparaître totalement au début du XIe siècle. La dernière mention d'un esclave chrétien en Catalogne est de 1035. L'esclavage rural, je ne parle pas ici de l'esclavage urbain qui se maintiendra pendant très longtemps dans certaines villes, l'esclavage rural, l'esclavage autochtone disparaît complètement. Alors pourquoi ? Il est évident que cette disparition du régime esclavagiste est une conséquence de l'expansion économique, de la conquête des sols qui marque l'histoire catalane à cette époque. La colonisation des terres frontalières, des terres de personnes, du No Man's Land, offre d'évidentes possibilités de fuite aux esclaves de l'arrière-pays. Les besoins de main-d'œuvre sont tels dans ces zones frontalières que ces évasions sont tolérées et même favorisés par les autorités. Je pense par exemple à la charte de fondation de Cardone, où on fait le meilleur accueil aux esclaves fugitifs. J'ajoute que l'expansion nécessite non seulement beaucoup de main-d'œuvre, mais aussi une grande mobilité de cette même main-d'œuvre. Mobilité incompatible avec le maintien d'un quelconque système esclavagiste. Les maîtres du sol, s'ils veulent participer à ce phénomène d'expansion, n'ont d'autre possibilité que d'affranchir leurs derniers servis pour les installer sur des tenures de colonisation, souvent fort éloignées des centres domaniaux. Donc on peut appliquer, me semble-t-il, à la Catalogne, l'idée que Pierre Toubert a développée pour le Latium, à savoir que le phénomène d'expansion agraire est à mettre à l'actif, en grande partie, à l'actif du petit prolétariat des affranchis. C'est l'expression qu'il utilise. Alors, dans la mesure où l'esclavage est devenu au Xe siècle un phénomène tout à fait marginal, un phénomène résiduel, la société catalane du Xe siècle apparaît essentiellement comme une société d'hommes libres. Et j'ajouterai d'hommes de plus en plus libres à mesure que l'on avance dans le Xe siècle et que l'on arrive aux premières années du XIe siècle. Cette liberté paysanne peut se définir, me semble-t-il, à partir de quatre critères principaux. Premier critère, le critère judiciaire. Les paysans assistent aux plaies publiques, aux assemblées de justice publiques. Ils peuvent intenter individuellement ou collectivement des actions en justice, devant les cours comptables, devant les cours vicomtales, et souvent ils obtiennent gain de cause. Critère militaire. En ce pays de frontière qu'est la Catalogne, la paysannerie est armée. Et les paysans participent, jusqu'au début du XIe siècle, aux expéditions publiques en terre d'islam. Les textes nous disent que ces expéditions regroupent aussi bien des minimi que des maximi. Critère économique. L'alleu paysan, je l'ai déjà écrit maintes fois, je le répète rapidement, l'alleu paysan est au Xe siècle la structure foncière prédominante. Et cette hégémonie est particulièrement nette dans certains terroirs où 80% des parcelles représentent des alleux paysans. Enfin, quatrième critère, cette paysannerie possède des formes d'organisation propres avec les communautés villageoises, disons plutôt les communautés rurales, si nous ne voulons pas prendre parti sur le problème de la naissance du village. Elles se regroupent en communautés rurales qui sont parfois dotées, dès le Xe siècle, de chartes de franchise, qui parfois, par exemple dans la région d'Urgeil, possèdent les églises paroissiales, qui parfois même, et je pense au cas de Ribes, possèdent le castrum. La Catalogne connaît donc, dans la deuxième moitié du Xe siècle, dans le premier tiers du XIe siècle, une situation tout à fait exceptionnelle. L'esclavagisme est mort, le féodalisme n'est pas encore né. C'est une phase d'entre-deux, c'est une phase de hiatus, c'est une phase de rupture de l'ordre établi. Et au cours de cette phase se développe un régime de liberté de plus en plus accentué. Et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe dans l'Europe de ce temps où le régime le plus général est celui de la dépendance, pour ne pas dire de la servitude. Mais c'est un paradoxe qui est explicable par la part prédominante qu'a prise la paysannerie dans le mouvement de conquête des sols et aussi dans la défense du pays. Mais c'est un paradoxe qui ne saurait durer, car en aucun cas il n'est acceptable par la classe dominante. Si en effet, la société du Xe siècle, du début du XIe siècle, est une société d'hommes libres, c'est aussi une société très inégalitaire. C'est une société où une masse de paupéres, la paysannerie dans son ensemble, disons, est dominée par une poignée de potentesses, quelques familles de l'aristocratie. La paysannerie est libre, mais elle est très pauvre. L'alleu paysan est prédominant, mais il est très fragile. Il est à la merci de tous les aléas de la conjoncture. Et on le voit se défaire continuellement. Il se défait à mesure qu'il se forme. Il se défait à la suite de mauvaises récoltes, à la suite de chaque disette. Le paysan est obligé de vendre une partie de sa terre, d'emprunter pour survivre, pour que les siens puissent survivre. D'où la masse des actes de vente d'alleux, la masse des actes d'impignoration que nous trouvons dans les archives catalanes de cette époque-là. J'ajoute que le paysan se défait aussi à la suite de confiscations judiciaires, surtout d'ailleurs au profit de l'Église, et c'est ce que montre bien en particulier la communication que nous présentera Ramon Marty sur la formation du temporel de l'Église de Gérone. On constate donc, au Xe siècle, un phénomène d'érosion de l'alleu paysan base de la liberté paysanne. La paysannerie s'affaiblit et sa liberté devient de plus en plus illusoire et sa liberté ne résistera pas aux secousses du XIe siècle. La paysannerie sera désarmée lorsque l'aristocratie décidera de récupérer pour elle-même les fruits de la croissance par la mise en place des structures seigneuriales et féodales. Alors, deuxième point, les facteurs d'instauration du féodalisme. Il y a d'abord les facteurs économiques. Sur ce point, je passerai très vite, parce que là aussi, j'en ai parlé assez longuement dans le passé. Je voudrais simplement noter ici quelques points principaux. D'abord, noter qu'aux alentours de l'an 1000, la croissance qui a commencé deux siècles plus tôt, la croissance s'accélère. Aux alentours de l'an 1000, elle change de rythme, elle change de nature. Les progrès, et en particulier les progrès techniques, se font de plus en plus rapides. Les investissements, par voie de conséquence, sont de plus en plus lourds. Ils ne peuvent plus être supportés par la paysannerie alletière. Ils vont être pris en charge par les plus riches, par les grands propriétaires, par les monastères, par les comtes, par les vicomtes, par l'aristocratie laïque et ecclésiastique. On peut prendre l'exemple des moulins. Les moulins du haut Moyen-Âge étaient des moulins très sommaires, des très simples, très archaïques, sans doute des moulins à roues horizontales d'ailleurs. Ils étaient construits par les paysans eux-mêmes, par de petits propriétaires qui s'en partageaient la propriété. À partir du XIe siècle, il s'agit de moulins puissants, modernes, avec engrenage de fer, sans doute d'ailleurs des moulins à roues verticales, donc des moulins très coûteux. Et ils sont construits cette fois par l'aristocratie, par les comtes, par les évêques, par les monastères, par les châtelains. Et ces nouveaux moulins font aux anciens moulins paysans une concurrence impitoyable. Donc la paysannerie n'avait de chance de faire face aux nouvelles exigences du progrès technique et économique qu'en restant très groupée et en procédant à des investissements collectifs, communautaires. Elle l'a fait quelquefois. Et je pense par exemple à ces paysans du village de Corodamunt, en Haut-Valiès, qui en 1018 vont tous ensemble, sous la direction du prêtre du village et du forgeron du village, vont tous ensemble au palais comtal de Barcelone trouver la comtesse Ermesende pour lui acheter les eaux du torrent qui traverse leur village, car, disent-ils, ils veulent creuser un canal d'irrigation pour arroser leur récolte. C'est un exemple d'investissement collectif. Mais de telles initiatives, si elles ont existé, ont été insuffisantes. Et dans l'ensemble, la maîtrise de la croissance économique est passée au XIe siècle, entre les mains de l'aristocratie. Voilà pour le facteur économique, évidemment, on pourrait développer encore beaucoup plus longuement. Autre facteur qui me semble décisif et dont on ne parle pas généralement assez, le facteur militaire. Le facteur militaire est très important à considérer et je crois qu'il a été trop négligé jusqu'ici. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'abord du progrès de l'armement proprement dit. Progrès de l'armement qui est lié au développement de la métallurgie, au développement de l'emploi du fer. Et Manuel Riu insiste beaucoup sur la précocité de la métallurgie catalane, et je crois qu'il a parfaitement raison, c'est un phénomène extrêmement important. L'armement devient de plus en plus lourd, donc de plus en plus coûteux, et son acquisition dépasse les possibilités matérielles de la paysannerie, d'où des disparités croissantes dans l'équipement militaire des grands et des petits, des riches et des pauvres. Et ceci, l'iconographie nous le montre bien. Si l'on observe, par exemple, les miniatures de la Bible de San Pedro de Roda ou les miniatures de la Bible de Ripoll, on distingue en gros trois catégories de combattants. Il y a des cavaliers lourdement équipés, avec hommes, aubers, épées, lances, écus, etc. Armement complet. Il y a ensuite des fantassins, qui sont à moitié équipés, qui possèdent un homme, par exemple, mais pas de haubert, qui possèdent une épée, mais pas de lance, etc. Et troisième catégorie, des combattants complètement désarmés, qui sont certainement des paysans, et qui ne peuvent faire autre chose que de se battre avec des pierres qu'ils lancent soit à la main, soit avec une fronde. Et d'ailleurs, il est significatif de voir qu'ils lancent ces pierres sur les cavaliers. Autre progrès qu'il faut signaler et qui me semble important sont les progrès de l'élevage du cheval qui conditionne le développement de la cavalerie féodale par voie de conséquence de la chevalerie. Il y a d'abord sélection des races. Sélection des races qui aboutit à l'individualisation d'un cheval de guerre spécialisé, le destrier. Il y a des élevages spécialisés. Et quelquefois, les textes en font mention. Je pense par exemple à une charte des environs de 1010 qui concerne le Paliars et où il est question de lieux curieux et privés où il est de coutume, dit-on, d'élever des chevaux. Unde cum suetum est ponere caballos. Et il y a le développement de la culture de l'avoine qui fait des progrès considérables au XIe siècle, on s'en aperçoit, par la fréquence de plus en plus grande des redevances en avoine, en cibades, en particulier dans le cadre de la seigneurie banale. Donc, je parlais des moulins tout à l'heure, et je crois qu'il y aurait toute une histoire du moulin catalan à faire, qui serait tout à fait intéressante, mais je pense ici aussi qu'il y aurait une histoire du cheval catalan à faire, et cette histoire, on a tous les éléments, je crois, pour la faire, et ça serait important. Et enfin, surtout, sans quitter le domaine militaire, il y a le phénomène de construction des châteaux. Le château apparaît comme l'arme absolue de l'aristocratie. Il importe donc de savoir comment ces châteaux, primitivement construits pour défendre les populations contre l'envahisseur. Il importe aussi de savoir comment la géographie des châteaux s'est modifiée entre le IXe et le XIe siècle. Combien de châteaux nouveaux ont été construits, à quel endroit et quand. Comment aussi les châteaux anciens se sont transformés par la modification des techniques de construction. Comment enfin s'est établi le lien entre château et village, et c'est là le problème immense de savoir si la Catalogne a connu une forme d'incastellamento et quelle forme. Sur tous ces points, il est évident que l'histoire ne peut pas progresser seule. Elle a un besoin impérieux de l'aide de l'archéologie. C'est dire tout le prix que nous devons attacher à la très riche et très neuve communication que va nous présenter Manuel Riu tout à l'heure sur ce problème, qui est essentiel. Troisième point que j'aborde, c'est celui des caractéristiques propres de la genèse du féodalisme catalan. Ce qui frappe le plus, c'est la rapidité et la violence qui, souvent, un siècle et même plus, à s'imposer. Ici, c'est imposé en l'espace d'une génération, entre, disons, 1030, 1040 et 1060, en 20 ou 30 ans. Tous ceux qui ont travaillé dans les archives catalanes du XIe siècle savent avec quelle rapidité la documentation se transforme au XIe siècle. La documentation change de nature avec l'apparition de nouveaux types d'actes, les convenienciers, les serments de fidélité dont nous parlera demain Michel Zimmermann. Non seulement change la nature des actes, mais change aussi leur contenu, leur forme, la langue, le vocabulaire, tout change. On a l'impression d'assister à un véritable séisme. C'est qu'ici, le féodalisme est véritablement le produit d'une insurrection, d'une véritable guerre civile qui se déchaîne dans le comté de Barcelone. C'est l'épisode bien connu de la révolte de Mir Géribert et de ses barons, mais aussi en Pallars, mais aussi en Cerdagne, mais aussi dans le pays d'Urgell, partout. La violence est partout. Et c'est contre cette violence, d'ailleurs, qu'essaient de lutter, de manière quasi désespérée, les promoteurs du mouvement de la paix de Dieu, avec, en premier lieu, l'évêque Oliba. Alors pourquoi cette violence? Sans doute parce qu'ici, les structures anciennes, les structures traditionnelles, se sont maintenues plus longtemps qu'ailleurs. Structures fondées sur une loi écrite, sur ce Liber Judiciorum que nous présentera Anscarimundo demain. Structures fondées sur l'exercice d'une justice publique. Structures fondées aussi sur la reconnaissance des franchises paysannes. Lorsque ces structures craquent, elle craque d'un seul coup. Alors comment se produit la cassure? Son caractère le plus net réside dans ce que Jean-Pierre Poli et Éric Bournazel ont appelé dans leur dernier livre « La mutation féodale », ont appelé le déchirement des communautés villageoises. Le déchirement des communautés villageoises. Une partie de la paysannerie change de camp. Une partie de la paysannerie rejoint le camp de la noblesse châtelaine et va lui fournir ses auxiliaires armés. De quelle partie de la paysannerie s'agit-il? Il est très difficile de le savoir en vérité. Sans doute de la fraction la plus aisée de la paysannerie halletière, de ces paysans qui étaient encore assez riches pour posséder un cheval et des armes. Ce sont les fils de ces familles paysannes riches, les fils les plus robustes, les plus agiles au combat, peut-être les plus doués, qui vont former les bandes de cavalerie, désormais attachées au château, qui vont former le groupe des milites castri et bientôt des milites tout court. Ce sont eux qui vont imposer, au profit de la noblesse bien sûr, mais accessoirement à leur propre profit, le régime de la seigneurie banale, qu'on peut tout aussi bien appeler castrale ou juridictionnelle, ou comme le fait Thomas Bisson dans sa communication de demain, arbitraire. Et ils vont imposer ce régime à la paysannerie, dont pourtant ils sont issus pour la plupart. Ce sont eux, par ailleurs, qui, en rémunération de leurs services, vont recevoir les fiefs qui maintenant se multiplient en Catalogne. Cavallarias pour les simples cavaliers, castlanias pour ceux d'entre eux qui, en raison de la qualité de leurs services, ont pu obtenir la garde d'un château. Et ce sont eux, castlans et cavaliers, qui vont former les effectifs de la nouvelle classe féodale. Donc, basculement d'une partie de la paysannerie, mais aussi basculement du pouvoir comtal. Jusqu'au milieu du XIe siècle, plus précisément jusqu'à la date de 1052, Le comte de Barcelone s'est montré le protecteur jaloux de la classe paysanne, le défenseur pointilleux des franchises villageoises. En 1052 encore, lors de la première sentence qui est prononcée contre Mire Géribert, le comte condamne celui-ci à réparer tous les torts commis envers les paysans du Vallès et du Penedès, à restaurer les franchises qui ont été anéanties, à dédommager les paysans pour les albergues, pour les toltes, pour les forcios qui leur ont été imposés. En 1059, 7 ans plus tard, lors de la deuxième sentence prononcée contre Mire Géribert, il n'est plus question de tout cela. Pour obtenir le ralliement de son aristocratie révoltée, le comte n'exige plus aucune réparation à l'égard des paysans. Autrement dit, il les abandonne au pouvoir des seigneurs. Autrement dit, il reconnaît tacitement l'instauration de la seigneurie banale ou de la seigneurie castrale. C'est une date qui me semble capitale et qui peut être considérée, cette date de 1059, comme celle de la légalisation du régime seigneurial en Catalogne, autrement dit comme celle de la légitimation du féodalisme naissant. Et à ce sujet, je voudrais au passage, moi aussi, à mon tour, rendre hommage à Santiago Sorregues Vidal, car c'est lui qui, dans son livre « Es gran contes de Barcelona », a pour la première fois établi une chronologie sûre de ces deux sentences, qui le premier a établi la chronologie de la révolte de Mire Géribert et qui le premier a compris l'importance de cette crise du milieu du XIe siècle qui n'est pas seulement une crise politique mais fondamentalement une crise sociale. Et c'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui étudier avec sûreté un des moments capitaux de l'histoire sociale de la Catalogne. Quatrième et avant-dernier point que je voudrais étudier, le temps. Les structures du premier féodalisme catalan. Ces structures sont à considérer à deux niveaux. Premier niveau, celui des rapports entre noblesse et paysannerie. Deuxième niveau, celui des structures internes de la classe nobiliaire. L'étude des rapports entre noblesse et paysannerie pose tout le problème de la définition de la seigneurie et de l'imposition à l'intérieur de la seigneurie des nouvelles formes de servitude. C'est évidemment un problème immense et je n'en relèverai ici par conséquent que quelques aspects. Sur les formes de la dépendance paysanne, je crois qu'il convient de remarquer à quel point elle se modèle sur les usages proprement féodaux. Les paysans sont les hommes de leur seigneur, et dans bien des cas, ils sont leurs hommes solides. Le terme « domines solidi » étant fréquemment employé comme synonyme de « homines proprii ». Ceci suppose la prestation d'un serment d'allégeance. Ceci suppose aussi la prestation d'un hommage, du type de l'hommage servile. Et d'ailleurs... La prestation de cet hommage apparaît très tôt, dès 1045-1046, à la Magne de Cervellio et sa femme Sicartz dénomment leurs paysans homines de nostro hominatico. De même, la tenure paysanne est souvent, surtout dans la région de Vic, qualifiée de fief, c'est la terra fevale. Ceci nous montre le caractère complet et systématique de la féodalisation de la Catalogne, qui n'a pas concerné ici que les couches supérieures de la société, comme c'est le cas par exemple dans la France du Nord, mais qui a concerné la société tout entière. Sur la nature de cette servitude, le problème essentiel est celui de l'origine et de la définition des mals usos. Je suis persuadé, bien sûr, que ceux-ci tirent leur origine des exactions banales du XIe siècle. Mais à la fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, ces mals usos sont encore extrêmement divers, variables d'une seigneurie à l'autre, parfois d'un paysan à l'autre, en tout cas extrêmement mal définis. Le terme d'ousatikos, de malos ousatikos, est encore très susceptible de recouvrir des acceptions très différentes. Et les études de Thomas Bisson et de Paul Friedman montrent que c'est à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle que ces mals ous ont été définis et qu'ils ont été systématisés, et qu'ils ont été associés de plus à l'attache à la terre qui constitue la rémence. Sur l'extension de cette servitude, il est encore très difficile de se prononcer. Il est certain qu'à la fin du XIe siècle, et ça je ne l'ai jamais écrit, on me l'a fait dire, mais je ne l'ai jamais écrit, à la fin du XIe siècle, toute la paysannerie n'est pas asservie, bien sûr. Il subsiste encore des espaces de liberté. Seulement, quels espaces, où et quelle est leur importance? Ces espaces de liberté coïncident-ils avec les zones les mieux protégées par la paix de Dieu? C'est ce qu'a écrit Cuvillier il y a un certain nombre d'années dans un article sur les communautés rurales de la plaine de Vic. Autrement dit, les paysans restés libres seraient essentiellement les paysans des Sagreres, en particulier dans la région de Vic. Ou bien alors, ces espaces de liberté coïncident-ils avec le domaine comtal? Ceci montrerait que le comte n'a pas capitulé complètement devant le féodalisme naissant, et que sur ses propres domaines au moins, il a su maintenir certaines formes de liberté paysanne. C'est ce que semble nous dire Thomas Bisson dans sa communication. Enfin, ces quelques espaces de liberté ont-ils eu tendance à s'élargir ou à se restreindre au XIIe et au XIIIe siècle? Ils ont eu plutôt tendance, semble-t-il, à se restreindre, si l'on en croit ce que nous disent Thomas Bisson et Paul Friedman. Les dernières franchises, en effet, subissent une nouvelle crise au milieu du XIIe siècle, et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, nous dit Thomas Bisson, les franchises sont des clairières dans une jungle de plus en plus dense de violences seigneuriales. Quant aux structures internes de la classe nobiliaire, elles sont ébranlées, elles sont malmenées par l'accession à la noblesse d'une foule de nouveaux venus, on pourrait dire de parvenus, les cavallarii, milites, castlans, etc., qui sont 5 fois, 10 fois, 20 fois plus nombreux que les nobles d'ancienne origine. Deux grands problèmes se posent donc. Celui d'abord de l'intégration de ces nouveaux venus, et ça a été un immense problème. Et celui, naturellement, de la cohésion de la nouvelle classe nobiliaire, de la nouvelle noblesse. Sur l'intégration des nouveaux venus, la documentation est malheureusement presque muette sur un point essentiel qui est celui de l'adoubement, autrement dit, de ce rite de passage qui permettait d'intégrer quelqu'un dans la noblesse. Par contre, sur la reconnaissance juridique de cette nouvelle noblesse, nous possédons un texte exemplaire, celui des Usages de Barcelone, dont l'un des articles au moins, l'article 5, la fin de l'article 4 et l'article 5, a justement pour objet de définir une nouvelle hiérarchie des personnes, calquée très exactement sur la hiérarchie féodale naissante, et plus exactement encore, a pour objet de définir les catégories de la nouvelle noblesse, vicomte, comtor, vavasseur, c'est-à-dire castlans, et en fin de compte, milites. Chaque catégorie ayant ses propres tarifs de composition. Et c'est ici, par conséquent, que nous rencontrons le problème des usages de Barcelone, problème très difficile sur lequel nous entendrons l'importante communication de messieurs Frédéric et Anthony Houdine. Quant à la cohésion d'ensemble du nouveau groupe nobiliaire, cette cohésion a été assurée de deux manières. Elle a été assurée d'abord par un développement que je qualifierais d'effréné des relations féodo-vassaliques. Relations féodo-vassaliques qui ont donné naissance à un tissu extrêmement serré de liens d'homme à homme, du haut en bas de la société nobiliaire. Et d'autre part, cette cohésion a été assurée aussi par un regroupement de toute la noblesse autour des comtes de Barcelone. Le comte est institué en arbitre des relations internes de cette noblesse. Et cet arbitrage est peut-être aussi à l'origine de la rédaction des premiers usages. D'autre part, le comte est mandaté par la noblesse pour lui apporter gloire et prospérité, d'où une politique d'expansion qui est menée à partir de Raymond Béranger Ier. Je termine, ce sera mon dernier point, en évoquant cette première expansion du féodalisme catalan. Sur ce point, je serai rapide, car je n'ai à traiter que de la période antérieure à 1150, période au cours de laquelle, il faut bien le dire, le phénomène d'expansion reste malgré tout limité. Cette expansion se fait dans deux directions. Vers l'ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire vers les terres de Lleida et de Tortose, et vers le nord, c'est-à-dire vers l'ère occitane. Le problème est de savoir dans les deux cas dans quelle mesure cette expansion s'est accompagnée de ce que nous pourrions appeler, entre guillemets, une exportation du modèle féodal catalan. L'expansion vers l'ouest s'est dès l'origine réalisée dans un cadre féodal. On peut même constater qu'au milieu du XIe siècle, les terres frontalières de l'ouest, le Bas Penedès, la conque de Barbera, le Bas Urgell, sont assurément les terres les plus féodalisées de Catalogne. Elles constituent sûrement le berceau du féodalisme catalan. C'est de là, en particulier du Bas Penedès, que part la révolte typiquement féodale de Mirgéribert. C'est là aussi qu'ont été définis avec le plus tôt et avec le plus de précision les termes des conventions féodales et particulièrement des conventions qui concernent la garde des châteaux. À cet égard, les plus anciens documents du fonds de Poblette, bien antérieurs bien sûr à la fondation du monastère, ces plus anciens documents datent de la période 1045-1055. Ces plus anciens documents du fonds de Poblette sont particulièrement significatifs. C'est là que l'on voit apparaître la Castlania et la Cavallaria avec leur signification technique de fiefs de Castlans et de Cavaliers. C'est là qu'on voit apparaître en 1045 la première mention d'hommages solides. C'est là aussi qu'on constate les premières donations d'hommes, de paysans, et c'est la preuve de leur asservissement. Et c'est aussi dans ces châtellenies de l'Ouest que s'élaborent les premiers mauvais usages, les premiers mals usos, les premières mentions de cugusia. Cugusia définie comme prélèvement en cas d'adultère. Les premières mentions de cugusias datent de 1058 et 1068 et elles concernent les châtellenies de Forès et de Barbera. Il est donc normal que par la suite, la progression de la colonisation se soit poursuivie dans des cadres féodaux. On s'en aperçoit par exemple vers 1100, après la conquête de Balaguer, à l'occasion des nombreuses inféodations auxquelles cette conquête donne lieu, inféodations en particulier de la part de l'évêque d'Urgell. Et on s'en aperçoit aussi, bien entendu, après 1150, lors de la reconquête de Tortosa et lors de la reconquête de Lleida. Et à ce sujet, la communication d'Antoni Virgile sur Tortosa est particulièrement éclairante, me semble-t-il. Au-delà encore, il me semble que la pénétration des usages féodaux a été très forte dans les campagnes de Nouvelle-Catalogne, plus forte qu'on ne le dit généralement. Mais ici, en Nouvelle-Catalogne, la tendance naturelle des barons à asservir les paysans a pu être contrecarrée par une conjoncture particulière, une conjoncture née des nécessités du peuplement, de la colonisation, des besoins en main-d'œuvre, qui imposait en quelque sorte une attitude inverse. D'où les grandes irrégularités de la géographie des mauvais usages en Nouvelle-Catalogne, comme l'ont bien montré Agustí Altisent pour l'Espluga de Francolí et Paul Friedman pour la Guardia del Prat. D'où cette sorte de dialectique, asservissement, affranchissement, qui caractérise toute l'histoire de la Nouvelle-Catalogne dans les années qui suivent 1150. Sur l'expansion en Occitanie, on se heurte à des problèmes plus difficiles du fait des déficiences de la documentation qui, en Languedoc ou en Provence, est infiniment plus pauvre qu'en Catalogne et sur beaucoup de sujets totalement inexistantes. On dispose de 100 fois moins de documents pour le Languedoc ou pour la Provence que pour la Catalogne. Alors, pour mesurer l'influence qu'a pu avoir le féodalisme catalan en pays occitan, il faudrait d'abord connaître le degré de féodalisation de l'Occitanie au moment de l'implantation de la maison barcelonaise. Or, ce degré de féodalisation, nous ne le connaissons pas. Et sur ce sujet, les idées divergent beaucoup, et elles divergent justement parce qu'on manque de documents sur lesquels s'appuyer. Il me semble personnellement que ce degré de féodalisation était assez élevé et peut-être comparable à ce qu'il était dans la Catalogne voisine. Pour ne prendre qu'un exemple, l'institution majeure du féodalisme méridional, à savoir la Castlania, eh bien la Castlania existe en Provence dès le milieu du XIe siècle. Donc la Castlania est aussi ancienne en Provence qu'elle l'est en Catalogne. Et elle y présente exactement le même type de structure. Alors que les comtes de Barcelone aient tenté d'utiliser ces institutions féodales autochtones pour asseoir leur domination me semble tout naturel. J'en veux pour preuve les 35 hommages et serments de fidélité que se fait prêter Raymond Béranger Ier en 1067 par les nobles de Carcassonne et du Razès aussitôt après l'acquisition des comtés. J'en veux pour preuve aussi les 89, et sans doute davantage parce que nous ne les possédons pas tous, les 89 hommages et serments de fidélité qui sont prêtés par les châtelains provençaux à Raymond Béranger III en 1113. Ces serments sont absolument conformes dans leurs termes aux serments de fidélité catalans. On y trouve le même vocabulaire, avec en particulier l'obligation de tenere, ayudare, defendare, guerreillare. Ceci ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une importation catalane en Languedoc ou en Provence. En fait, ces serments ont pu être dès l'origine les mêmes dans toutes ces régions. De même, il est très difficile de savoir si la féodalité occitane s'est développée sous l'impulsion des comtes de Barcelone ou s'est développée contre la domination des comtes de Barcelone. Et c'est ce que tendrait à montrer la communication que nous entendrons après-demain, je crois, de Martin Aurel. Mais de toute façon, pour ou contre, les formes de développement étaient les mêmes d'un côté et de l'autre des Pyrénées. Alors pour conclure, je partirai de cette similitude des structures sociales en Catalogne et en Occitanie. Cette similitude m'amène à poser une dernière question qui ne peut être pas prévue par le colloque mais qu'on ne peut pas ne pas poser. Celle des rapports entre l'affirmation de ce qu'on appelle l'identité catalane et le développement du féodalisme, puisque les deux phénomènes sont exactement contemporains. À ce sujet, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec mon ami Thomas Bisson, qui déclare dans son dernier article publié dans les Annales Économie et Civilisation qu'en Catalogne, la nation a précédé l'État. Je ne crois pas trop à la précocité de la naissance de la nation catalane, pas plus que de toute autre nation d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on puisse parler de nation catalane, pas plus que de toute autre nation d'ailleurs, avant le XIIe, peut-être le début du XIIIe siècle. Certes, au Xe, XIe siècle, il y a dans les comtés catalans communauté de langue, communauté de genre de vie. Mais cette communauté déborde alors largement du cadre de la Catalogne. C'est la même communauté que l'on trouve d'un bout à l'autre des pays que nous pouvons appeler catalano-occitans ou occitano-catalans, comme vous voudrez. La langue y est pratiquement la même et les genres de vie y sont aussi pratiquement les mêmes. Alors, qu'est-ce qui provoque, au sein de cet ensemble, la différenciation d'une Catalogne au sens strict du terme ? Pour répondre, je crois qu'on peut s'interroger sur l'origine même du mot Catalogne. À l'origine de la Catalogne, il y a, je crois que tout le monde est aujourd'hui un peu d'accord là-dessus, il y a les Castlans. Lors de l'expédition de Majorque de 1114, lorsque les Italiens, les Pisans en particulier, interrogeaient les guerriers de Raymond Béranger III sur leur identité, ces guerriers répondaient « Nous sommes des Castlans ». Ils s'identifiaient donc par rapport à une institution féodale, la Castlania. Par conséquent, il me semble que la première identification de la Catalogne est d'ordre féodal. Mais cette identification était encore trop générale, puisque la Castlania existait aussi ailleurs, et par exemple en Provence. Pour que s'affirme une vraie Catalogne, il faudra que toutes les châtellenies proprement catalanes et elles seules soient unifiées sous un seul et même régime. Cette coutume des châteaux, qu'évoque Thomas Bisson dans son dernier article, coutume des châteaux d'abord élaborée dans les conveniencier et ensuite ratifiée par les usages de Barcelone. Et il faudra aussi que toutes ces châtellenies soient réunies sous un même pouvoir, à savoir le pouvoir des comtes de Barcelone. D'où l'importance de la construction de l'État catalan, depuis, dans ses phases d'élaboration successives, depuis Raymond Béranger Ier jusqu'à Raymond Béranger IV, naissance de l'État catalan qui m'apparaît non pas comme la conséquence, mais comme l'une des conditions de l'émergence de la nation catalane. Autrement dit, le fait catalan est certes un fait culturel et personne ne serait assez sot pour le nier, mais le fait catalan m'apparaît à son origine aussi comme un fait social et politique.